Orgueil et préjugés par Jane Austen, tome 2, chapitre 1er. Le jour suivant fut témoin d'une nouvelle scène à Longbourn. Mr. Collins fit sa déclaration dans toutes les formes. Sa permission de séjour ne s'étendant pas au-delà du samedi suivant, il était décidé à ne point perdre de temps, et n'ayant pas la plus légère crainte d'être refusé, il prit une marche méthodique, n'oubliant aucune des formes qu'il croyait très essentielles dans une affaire de ce genre-là. Trouvant donc Mrs. Bennet, Elizabeth et une de ses sœurs cadettes réunies après le déjeuner, il s'adressa à la mère dans ces termes. « Puis-je espérer, madame, que vous m'accorderez votre intercession auprès de votre belle et aimable fille Elizabeth, si je sollicite d'elle une audience particulière dans le courant de la matinée ?» Elizabeth rougit de surprise, et Mrs. Bennet se hâta de répondre. « Oui, certainement. Je pense que Lizzie sera trop heureuse. Je suis sûr qu'elle n'aura point d'objection. Venez, Kitty, montez avec moi. » Elle rassemblait son ouvrage avec précipitation lorsqu'Elizabeth la rappela. « Chère madame, ne vous en allez pas. Je vous supplie de ne pas sortir. Mr. Collins doit m'excuser, mais il ne doit avoir rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Si vous sortez, je sortirai aussi. » « Non, non, Lizzie, quel enfantillage. Je désire que vous restiez. » Voyant qu'Elizabeth avait l'air fâchée et très embarrassée, et qu'elle cherchait à s'échapper, elle ajouta « Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez, Mr. Collins. » Elizabeth ne pouvait résister après une injonction aussi précise. Et un instant de réflexion lui fit comprendre que le parti le plus sage était de tâcher de s'en tirer le plus vite et le plus tranquillement possible. Elle se rassit donc, et s'efforça en baissant la tête sur son ouvrage de cacher l'ennui et l'embarras qu'elle éprouvait. Mrs. Bennet et Kitty s'échappèrent furtivement, et aussitôt qu'elles furent hors de la chambre, Mr. Collins commença. « Croyez, ma chère Miss Elizabeth, que loin de vous nuire, votre modestie ne fait qu'embellir encore toutes vos autres perfections. Vous auriez paru moins aimable à mes yeux si vous n'aviez pas fait cette légère résistance, mais... permettez-moi de vous assurer que j'ai l'autorisation de votre respectable mère pour m'adresser à vous. Vous ne pouvez méconnaître le but auquel tend ce discours. Cependant, je comprends que votre délicatesse naturelle doit vous engager à dissimuler. Mes assiduités ont été trop marquées pour qu'on ait pu s'y tromper. Presque aussitôt que je suis entré dans cette maison, je vous ai choisi pour devenir la future compagne de ma vie. Mais avant de vous déclarer mes sentiments, il serait peut-être plus convenable que je vous expliquasse mes raisons pour me marier et surtout celles que j'ai eues pour venir dans le Hertfordshire, comme je l'ai fait, dans l'intention de choisir une femme. » Mr. Collins, développant ses sentiments avec un calme si solennel, donna tellement envie de rire à Elizabeth qu'elle ne put pas profiter de la petite pause qu'il venait de faire pour prendre la parole. Il continua ainsi. Mes raisons pour me marier sont, premièrement, que je trouve convenable que tout ecclésiastique, qui est à son aise comme je le suis, donne dans sa paroisse l'exemple du mariage. Deuxièmement, que je suis convaincu qu'il ajoutera beaucoup à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais dû peut-être mettre cette raison à la première, c'est le conseil et la recommandation particulière de la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma patronne. Deux fois, elle a eu la condescendance de me faire connaître son opinion sur ce sujet, même sans que je lui eusse demandé, et la dernière fois, c'était positivement le samedi soir, avant que je quittasse Hunsford, entre deux parties de quadrille, pendant que Mrs. Jenkinson rangeait le tabouret sous les pieds de Miss de Bourg. Elle me dit « Mr. Collins, il faut vous marier. » Un ecclésiastique doit se marier, mais choisissez bien. Prenez une femme qui puisse me donner de l'agrément ainsi qu'à vous. Que ce soit une personne active, laborieuse, qui n'ait pas été élevée avec beaucoup de soins et de recherches, mais qui vous apporte un bon revenu. Voilà mon avis. Cherchez cette femme, amenez-la à Hunsford et j'irai la voir. Permettez-moi d'observer en passant, ma belle cousine, que la protection de Lady Catherine de Bourg n'est pas moins un des moindres avantages que je puisse offrir. Vous trouverez son ton et ses manières au-dessus de tout ce que je puis vous dire, et je ne doute pas que votre esprit et votre vivacité ne lui soit fort agréable, surtout lorsqu'ils seront modifiés par le respect et le silence que son rang vous imposera inévitablement. Voilà sur quel motif sont fondées mes idées générales en faveur de ce mariage. Il me reste maintenant à vous dire pourquoi j'ai tourné les yeux sur Longbourn pour y chercher une femme plutôt que sur Hunsford, où il y a, je vous assure, des jeunes personnes fort aimables. Étant destiné à hériter de cette terre, après la mort de votre très honoré père, qui vivra encore cependant bien des années, j'ai voulu choisir ma femme parmi ses filles, afin qu'au moment de ce triste événement, qui, comme je l'ai déjà dit, ne doit arriver que dans bien longtemps, la perte soit au moins aussi légère que possible pour elle. Voilà le motif qui m'a conduit à vos pieds, ma belle cousine, et je me flatte qu'il ne me nuira point dans votre esprit. Et maintenant, il ne me reste que vous assurer dans les termes les plus énergiques de la violence de mon amour. Quant à la fortune, elle m'est parfaitement indifférente, et je ne ferai à votre père aucune demande qui y ait rapport, parce que je suis parfaitement sûr qu'il ne me l'accorderait pas, et que 1000 livres ou 4% sera toute votre fortune, seulement après le décès de votre mère. Je serai donc muet sur ce chapitre-là, et je puis vous assurer que lorsque nous serons mariés, aucun reproche peu généreux ne s'échappera de mes lèvres. Il devenait cependant absolument nécessaire de l'interrompre. « Vous êtes trop prompt, monsieur, » s'écria Elisabeth, « et vous oubliez que je ne vous ai fait encore aucune réponse. Permettez-moi donc, sans tarder plus longtemps, de vous en faire une positive. Recevez mes remerciements pour l'honneur que vous me faites. J'y suis très sensible, mais je ne puis l'accepter. » « Ce n'est pas d'aujourd'hui, » reprit Mr. Collins, avec un geste solennel, « que je sais qu'il est d'usage, chez les jeunes personnes, de refuser d'abord l'homme qu'elles ont l'intention secrète d'épouser, et souvent même, le refus est répété une seconde et une troisième fois. Ainsi, je ne me laisserai point décourager, et j'espère vous conduire bientôt à l'hôtel. » « Sur mon honneur, monsieur, » s'écria Elisabeth, « votre espérance est fort extraordinaire, après la déclaration que je viens de vous faire. Je vous assure que je ne suis point de ces jeunes filles, s'il y en a, assez téméraires pour risquer leur bonheur en se faisant demander une seconde et une troisième fois. Je suis parfaitement décidé dans mon refus. Vous ne pouvez me rendre heureuse, et je suis convaincu que je suis peut-être la dernière femme au monde qui puisse vous procurer le bonheur. Si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis persuadé qu'elle ne me trouverait sous aucun rapport propre à remplir ses vues. »
Serait-il possible que Lady Catherine pensât de cette manière ?
Répondit gravement Mr. Collins.
Non, je ne puis croire que sa seigneurie désapprouva tout en vous. Vous pouvez être sûr que lorsque je la reverrai, je lui parlerai avec les plus grands éloges de votre modestie, de votre économie et de toutes vos autres aimables qualités.
En vérité, Mr. Collins, tous les éloges que vous ferez de moi seront bien inutiles. Vous devez me permettre de me juger moi-même et me faire l'honneur de croire ce que je dis. Je souhaite que vous soyez riche et heureux, et en refusant votre main, je fais ce qui est en mon pouvoir pour empêcher que vous ne deveniez le contraire. La proposition que vous m'avez faite doit avoir satisfait la délicatesse de vos sentiments à l'égard de ma famille, et lorsque le cas arrivera, vous pourrez sans aucun scrupule prendre possession de la terre de Longbourn. Cette affaire doit donc être considérée comme terminée. » Et se levant, en prononçant ces dernières paroles, elle allait quitter la chambre lorsque Mr. Collins lui répondit « Quand j'aurai l'honneur de vous entretenir de nouveau sur ce sujet, j'espère recevoir une réponse plus favorable que celle que vous venez de me donner. Je suis loin de vous accuser de cruauté dans ce moment, parce que je sais, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est un usage établi par les dames de refuser un homme à la première demande, et peut-être même, avez-vous déjà dit, tout ce que la délicatesse du caractère féminin peut vous permettre pour encourager ma poursuite. « Réellement, Mr. Collins, » s'écria Elisabeth, « vous m'embarrassez extrêmement. Si tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous paraît des encouragements, je ne sais plus de quelle manière énoncer mon refus pour vous persuader que c'en est bien. Vous devez, ma chère cousine, me permettre d'espérer
que le refus que vous faites de ma main n'est qu'une formalité d'usage. Je vais vous dire en deux mots les raisons que j'ai pour le croire. Il ne me semble pas que ma main, ainsi que l'établissement que je vous offre, soit à dédaigner. Ma position dans le monde, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille, sont autant de circonstances qui plaident en ma faveur. Et vous devez aussi réfléchir que malgré tous vos charmes, il n'est pas sûr qu'on vous fasse jamais une autre proposition de mariage. Votre fortune est si modique qu'elle nuira probablement à l'effet de votre beauté et de vos aimables qualités. J'en dois donc conclure que vous ne me refusez pas sérieusement. J'aime mieux attribuer votre résistance au désir que vous avez d'exciter mon amour, en le tenant en suspens, comme font à présent les femmes du bon ton. Je puis vous assurer que je n'ai aucune prétention quelconque à cette espèce de bon ton qui consiste à tourmenter un homme respectable. Je vous remercie donc encore une fois de l'honneur que vous m'avez fait par votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me le défendent à tous égards. Puis-je parler plus clairement ? Ne me considérez plus comme une de ces femmes du bon ton qui auraient l'intention de vous tourmenter, mais comme une créature raisonnable qui vous dit la vérité. Vous êtes vraiment charmante, s'écria-t-il avec une galanterie pleine d'affectation et de gaucherie. Et je suis persuadé que lorsque mes offres seront appuyées par l'autorité de vos excellents parents, elles seront acceptées promptement.
Élisabeth vit qu'il était inutile de vouloir combattre une telle obstination à se tromper soi-même. Elle se retira en silence, déterminée, s'il persistait à regarder ses réponses comme des encouragements, à s'adresser à son père, dont le refus positif ne pourrait pas au moins être pris pour l'affectation et la coquetterie d'une femme du bon ton.